VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. RDC, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, juge élevé le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Nous sommes très préoccupés et nous nous préparons à tous les scénarios, y compris le pire des scénarios, a déclaré ce vendredi le directeur du programme de gestion des stations des situations d'urgence de l'OMS, Peter Salama, lors d'un point de presse à Genève. Il a précisé que l'agence spécialisée des Nations Unies avait comptabilisé 32 cas, dont 2 cas confirmés, 18 probables et 12 suspects, ainsi que 18 décès entre le 4 avril et le 9 mai dans la région de Bikoro, située au nord-est de la capitale Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Mais seulement un des décès est absolument confirmé et a pour cause l'Ebola, soulignent les spécialistes. 3 des 32 cas enregistrés sont des membres du personnel soignant, a souligné Peter Salama, ce qui préoccupe fortement l'OMS, car de tels cas peuvent avoir un rôle d'amplificateur de l'épidémie, dit-il. M. Salama a également annoncé que l'ONU espérait mettre en place un point aérien dès ce week-end avec des hélicoptères pour acheminer le matériel nécessaire dans la région de Bikoro, très pauvre en infrastructures. En outre, l'OMS attend le feu vert des autorités de la RDC pour distribuer un vaccin expérimental anti-Ebola. Eddy Isango a interviewé le docteur Oli Ilunga, le ministre congolais de la Santé, et lui a demandé comment des membres du personnel soignant continuent d'être infectés par le virus de l'Ebola.
Ils sont en première ligne. Lorsqu'un malade vient vers eux avec des symptômes de fièvre, mais il peut penser que c'est la malaria, mais si ça s'avère que c'est une fièvre hémorragique, il est à risque. Donc ça n'a rien à voir avec... Il faut considérer que c'est une maladie virale, que dans le monde entier, on peut mourir d'une maladie virale comme l'hépatite, qu'on peut mourir d'une maladie virale comme la grippe. Et Ebola aussi, elle est beaucoup plus agressive.
Quelles sont les dispositions qui sont prises pour que ça ne se propage pas rapidement et pour contenir l'épidémie?
Informer d'abord, un, les professionnels de la santé de prendre les différentes mesures nécessaires. Deux, informer également la population pour couper la chaîne. Je crois que la principale chaîne pour couper Ebola, c'est isoler les malades, l'hygiène de main. Et une autre dimension importante, c'est lorsqu'il y a un décès suspect, il faut que l'enterrement se fasse de manière sécurisée.
Le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé de la RDC à Kinshasa. Congo-Brazzaville, dette publique, corruption, conflit civil, les évêques du pays ont dressé un bilan sévère des maux qui frappent le Congo-Brazzaville sans ménager le pouvoir auquel ils demandent un dialogue politique et un audit de la dette, ni ses partenaires extérieurs. En conclusion de leur lettre, les évêques proposent au régime du président Denis Sassou Nguesso d'ouvrir un dialogue politique le plus large possible. Sans faire allusion à l'actuel procès du général Jean-Marie Michel Moukoko, ex-chef d'état-major et candidat à l'élection présidentielle de 2016, l'indignité religieuse congolais souligne le besoin d'une justice équitable et indépendante et demande de libérer toutes les personnes en prison à la suite des contentieux politiques. En République centrafricaine, plusieurs ONG tirent la sonnette d'alarme sur la montée de l'insécurité. Plus de détails avec Marie Benson.
Selon le comité de coordination des ONG internationales en Centrafrique, la situation humanitaire à Bangui se détériore rapidement depuis début avril 2018. Le 1er mai dernier, l'arrestation d'un chef de milice dans le PK5 avait engendré des violences qui ont fait au moins 24 morts et 170 blessés. Dimanche, 2 personnes ont été tuées et 10 blessés dans des tirs. Le comité de coordination des ONG déplore un manque d'accès de l'aide humanitaire dans ce quartier, majoritairement musulman, et les alentours. Des barrages de miliciens et des postes de contrôle se multiplient ces 10 derniers jours et limitent l'accès des véhicules humanitaires. Les agents humanitaires se voient refuser l'accès à de nombreuses femmes, hommes et enfants qui ont besoin des services sanitaires de base et ils se sentent ciblés par des actes de violence.
En Guinée équatoriale, Citoyens pour l'innovation, le principal parti d'opposition d'Issou en février, a annoncé ce vendredi son intention d'introduire un nouveau recours devant la Cour constitutionnelle après la confirmation lundi de sa dissolution par la Cour suprême. Selon Gabriel Nsé Obiang-Obono, leader du parti, Citoyens pour l'innovation compte se pourvoir auprès du tribunal constitutionnel parce que sa loi organique prévoit que si une sentence de la Cour suprême a violé les droits fondamentaux, il est possible de le faire. Le parti dissous a 90 jours pour introduire ce recours, a précisé Fabien Nsouengema, l'un des avocats du parti, pour qui la loi a été foulée aux pieds. Rappelons que lundi, la Cour suprême avait confirmé la dissolution décrétée le 26 février par le tribunal de Mangomo, ville de la partie continentale de la Guinée équatoriale située près de la frontière avec le Gabon, qui a condamné 21 militants du parti à 30 ans de prison, notamment pour sédition.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes au Sahel. Maintenant, une succession d'erreurs est à l'origine de la mort de soldats américains lors d'une embuscade au Niger en octobre 2017. C'est ce qu'a révélé l'enquête du Pentagone, dont les grandes lignes ont été présentées dans un rapport rendu public hier. Le document estime que manque de préparation et une supervision insuffisantes ont entraîné la mort de 4 soldats américains et de 4 soldats nigériens le 4 octobre 2017 près de Tongo Tongo au Niger. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'enquête du major général Roger Cloutier d'Africom a pris plus de 6 mois. Ses limiers ont été sur les lieux de l'attaque, visité 6 pays, interrogé 143 témoins, dont 37 survivants, et ont consigné un rapport de 6000 pages resté confidentiel, mais dont 8 pages de résumé ont été rendues publiques. D'après le Pentagone, les soldats américains sont arrivés à l'automne au Niger pour former l'armée nigérienne et lui fournir une assistance dans la lutte antiterroriste. Au moment du déploiement, seule la moitié de l'unité avait eu un entraînement collectif. La mission d'octobre était de trouver, surveiller et si possible capturer un responsable du groupe djihadiste autoproclamé État islamique dans le Grand Sahara, dirigé par Adnan Abou Walid Sarawi. Mais selon l'enquête, le chef de la patrouille a défini de manière inexacte la nature de cette mission, disant qu'ils allaient parler à des leaders locaux. De plus, la description de la mission était un copier-coller, ce qui a montré un manque d'attention aux détails. Par ailleurs, les militaires ne portaient pas de gilet pare-balles et ont dû stopper les véhicules pour les mettre. Le feu ennemi s'est alors rapidement intensifié, alors que les assaillants en grand nombre sortaient d'une zone boisée. L'intervention d'avions de chasse de l'armée française, qui ont survolé la zone à basse altitude dans une démonstration de force, a forcé les assaillants à battre en retraite.
Guinée, l'opposition guinéenne suspend sa participation au dialogue avec le pouvoir, qui refuse selon elle de trouver une solution au contentieux des élections locales de février. Elle a annoncé jeudi la prochaine reprise des manifestations antigouvernementales avec une journée ville morte prévue lundi à Conakry. Les détails avec Irénée Hermanoumbo.
Selon Selonda Aleng Diallo, leader de l'UFDG, il n'y a aucune volonté de la part des adversaires d'en face pour trouver un consensus au contentieux électoral. En plus de la suspension du dialogue avec le pouvoir, l'opposition entend reprendre ses manifestations par une journée ville morte à Conakry dès lundi prochain. Le pouvoir refuse toute modification des résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, alors que les chiffres publiés ne reflètent nullement, selon l'opposition, la vérité des urnes. Nous avons demandé que les corrections soient apportées et que le choix des citoyens dans les bureaux de vote prévalent, a déclaré Selonda Aleng Diallo. Le leader de l'opposition affirme détenir les procès-verbaux dûment signés par les personnes habilitées, mais ces documents ont été selon lui éliminés ou falsifiés lors de la centralisation des bulletins de vote. Il a aussi dénoncé la détention de plus de 107 de ses partisans arrêtés en rapport avec les élections locales du 4 février.
Dossier Corée du Nord. Pour terminer, le 12 juin à Singapour, soit dans un mois, le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un vont se rencontrer lors d'un sommet historique pour discuter d'un enjeu crucial, la dénucléarisation de la Corée du Nord. Jacques Aristide.
Après avoir entretenu le suspense, le locataire de la Maison Blanche a annoncé la date et le lieu de ce tête-à-tête quelques heures après avoir accueilli hier 3 prisonniers américains libérés par Pyongyang. « Nous allons tous deux essayer d'en faire un moment très important pour la paix dans le monde », écrit le président Trump sur Twitter. Il a remercié Kim Jong-un, qui dit-il a vraiment été excellent avec ces 3 américains. Son secrétaire d'État Mike Pompeo, qui revient de Pyongyang pour préparer le sommet, n'a pas exclu qu'il dure plus d'un jour. Les diplomates américains et nord-coréens s'affairent pour définir l'ordre du jour de la rencontre. Le président américain espère un succès diplomatique après s'être attiré les critiques après l'annonce de son retrait de l'accord sur le nucléaire iranien. Le dirigeant nord-coréen a qualifié le sommet de chance historique pour construire un bel avenir et s'est dit prêt à négocier la dénucléarisation de son pays. Kim Jong-un s'est rendu 2 fois en Chine en 6 semaines pour parler au président Xi Jinping.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.